Vous êtes à l'écoute de Paroles de vie, soyez les bienvenus. La sexualité, il est toujours utile d'en parler, et cela d'autant plus que si nous ne le faisons pas, d'autres s'en chargent, et pas toujours avec des intentions louables, ni avec des contenus très recommandables. Et d'autre part, que nous ayons ou non des relations sexuelles, nous sommes tous créés, sexués, et donc la sexualité, comme nous le dira notre invité Roger Eckermann, cela nous concerne tous et toutes. Nous allons donc parler de sexualité aujourd'hui et, pour commencer, de la virginité. Alors si l'Occident ne l'apprécie plus guère, l'islam la revendique et dans l'histoire humaine, elle a eu une énorme importance jusqu'il y a une quarantaine d'années en arrière. Il faut dire que, techniquement, nous pouvons désormais dissocier sexualité et procréation et ça change tout. Enfin, presque tout. Roger Eckermann au micro de Philippe Malidor.
Il me semble que la relation sexuelle est beaucoup plus qu'un acte mécanique qui procure du plaisir. C'est normalement quelque chose de beaucoup plus profond. Chacun donne à l'autre et reçoit de lui du plaisir. Chacun s'abandonne à l'autre dans une relation de totale confiance. Donc pour les garçons, comme pour les filles, rien ne sera plus comme avant. Même si, en l'absence de traces physiques pour l'homme, on ne parle que de la virginité des filles. Je pense que c'est très très important aussi d'inaugurer la vie sexuelle dans un climat de confiance, en ayant su attendre et avec une personne dont on est sûr que déjà on éprouve vraiment un sentiment amoureux et que c'est pas une passade quoi. Alors. Les jeunes sont très soucieux de statistiques, de normes.
Ah oui.
J'ai une personne qui a pris contact avec moi, par exemple, qui se demande si elle n'aurait pas mieux fait, quand elle était adolescente, de se laisser aller, alors qu'elle va se marier, elle a plus de 24-25 ans, hein, elle va se marier, et elle se demande si elle dit « j'ai peur, j'aurais peut-être mieux fait de faire comme tout le monde ». Il faut savoir, et c'est une étude qui a été faite à la demande du gouvernement français, il y a une dizaine d'années, pour mieux organiser les campagnes de prévention contre le virus du sida, donc avec des conditions tout à fait sérieuses, des garanties. C'est l'INSERM, qui est l'Institut National de Recherche Médicale et d'Études Médicales, qui a fait cette étude. Eh bien, il y a plus du tiers des jeunes entre 18 et 20 ans qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc ceux qui ont décidé d'attendre ne sont pas anormaux. Il faut savoir aussi que quand dans un lycée, on dit que la moyenne d'âge du premier rapport sexuel est de tel âge. Il faut savoir que pour faire le calcul, on ne tient compte que de ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels. Alors bien sûr, l'âge qui apparaît est un âge beaucoup moins élevé que la réalité.
Et en supposant que les gens répondent sincèrement aussi.
Et en plus, en supposant que les gens répondent sincèrement. Mais ceux qui décident d'attendre ne sont pas anormaux. Et il n'y a pas que des chrétiens, hein, mais je le dis aussi dans des collèges laïques, ces chiffres-là, je peux les donner, puisqu'ils sont extraits d'une enquête très sérieuse. Quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut considérer l'union charnelle comme une signature définitive dans le corps de l'autre ?
Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, puisque normalement, c'est le couple constitué. Je rappelle simplement le texte qui institue, ou le couple ou le mariage, suivant la façon dont on le perçoit, qui rappelle quand même dans l'ordre, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc c'est l'aboutissement de la relation affective. Or, bien souvent dans notre société, on met le sexe avant.
Le concubinage qu'on appelle de plus en plus la cohabitation, est-ce que c'est forcément ce que Paul appelle l'impudicité ? Un terme un peu vieillot.
Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que l'apôtre Paul voulait mettre derrière le mot impudicité. Alors bien sûr que suivant qu'on veut fixer des règles morales ou qu'on est un libéral, eh bien on va dire que c'est de l'impudicité ou pas. Je pense que la cohabitation, c'est un choix de vie qui est en dehors du cadre conjugal, qui ne préfigure même pas ce que sera le cadre conjugal. Alors dans certains cas, bien sûr, des gens peuvent constituer un couple sans être passé devant monsieur le maire ou devant monsieur le curé ou le pasteur. Encore qu'en France, il faut toujours le maire. mais certains, dans la cohabitation, bon, vivent une aventure pour un temps déterminé et sans être engagés, quoi. Mmh. Du tout.
Oui, donc tout dépend des conditions tout dépend dans lesquelles
tout dépend
on,
des conditions.
On vit sous le même toit.
Voilà. Je connais un exemple d'un couple qui cohabite sans relation sexuelle depuis très longtemps et qui va se marier et qui attend le mariage pour inaugurer sa vie sexuelle. Alors vous voyez que ça existe aussi. Hein. Parfois, il y a des cohabitants pour des raisons économiques, mais qui savent aussi se préserver.
Vous citez l'exemple de quelqu'un qui se marie après un temps de cohabitation et puis il se retrouve en panne de désir. Alors, est-ce que c'est vrai que le mariage peut tuer l'amour ?
Ben, le mariage ne tue pas l'amour. Mais ce qui tue l'amour, c'est les expériences sexuelles prématurées qui n'ont pas eu lieu dans le cadre d'un couple constitué. Parce que lorsque des gens ont cohabité et ont eu une vie sexuelle avant le mariage, eh bien, au moment du mariage, les conditions changent. Et les conditions de la cohabitation ne sont pas les mêmes que les conditions du mariage. Et souvent, lorsque des gens cohabitent, comme il n'y a pas de lien formel, institutionnel entre eux, ils vont faire des efforts pour plaire à l'autre, pour préserver cette relation dont ils ont besoin, alors que lorsqu'ils sont mariés, bah ça y est, ils ont une assurance, donc ils se laissent aller, et là, il n'y a plus autant d'attention à l'autre. Et je connais souvent des exemples où des couples qui se sont mariés connaissent une perte du désir. Et puis il faut savoir aussi que la sexualité évolue dans le temps. On n'a pas la même sexualité à 30 ans qu'à 20 ou à 40 ou 50.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent. Elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi, je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos.
Elle pose de bonnes questions, cette fameuse chanson de Georges Brassens intitulée « La non-demande en mariage ». Avec Roger Eckermann, parlons-en justement de la valeur du mariage.
À part pour ne pas être radin et ne pas refuser une fête aux autres, quel est l'intérêt d'une cérémonie de mariage ?
Je crois que la cérémonie, c'est d'une part la reconnaissance du couple par la société. Puisque là, il y a la cérémonie à un côté public. Pour les parents, c'est aussi l'officialisation de la rupture. Je crois que c'est important aussi pour des parents de réaliser un jour que leur enfant ne leur appartient plus, qu'il est adulte, qu'il est lui-même, qu'il constitue avec quelqu'un une nouvelle cellule sociale et qu'il n'est plus dans leur dépendance.
On divorce avec ses parents.
D'une certaine façon, mais la tradition populaire insiste sur les relations qu'il y a tendues, parfois tendues, entre des beaux-parents et des gendres ou des belles-mères et des filles. Hein. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est souvent une source de difficulté. Donc, la cérémonie contribue à marquer cette rupture. Puis pour le couple, c'est aussi un engagement public devant témoins. Parce que un engagement qui est pris en privé n'a pas la même force qu'un engagement qui est pris devant témoins. Et ça peut aider le couple dans des moments difficiles, comme il peut en arriver dans tout couple, de se souvenir qu'il y a eu un avant et un après. Il y a une étape là qui est marquée par la cérémonie.
J'attends de nouveau sur les photos de notre mariage. Penche-toi sur ces images, sur le temps et ses ravages. Pense à nos amis, ceux qui ont eu des enfants depuis. Pleure aussi les disparus, ceux que l'on n'a pas revus. Pleure les miens et pense aux jours anciens. Mais ne comme des coquillages. Quand la mer s'est retirée, il y a tant à ramasser. Quand tu les tiens, repense aux jours anciens. Mais ne regrette rien. Nos plus beaux moments sont maintenant.
De mariage, et c'était le groupe LR pour terminer cette émission avec Roger Ackermann. Roger Ackermann, nous le retrouverons très bientôt pour évoquer des questions comme l'érotisme dans le couple, le devoir conjugal ou encore la sexualité comme besoin fondamental ou non, ou comment. Signalons encore que Roger Ackermann, qui est sexothérapeute, a publié un livre intitulé « Tabou » aux éditions Farel.
Si vous le désirez, vous pouvez obtenir gratuitement le CD de cette émission. Pour cela, écrivez à Parole de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges, Sedex, France. Ou envoyez un courriel à paroledevie@eclair6.com, paroledevie@eclair6.com.